RFI 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Le journal avec vous, Xavier Besson.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Question de souveraineté et décision mûrement réfléchie, dit le Tchad. N'Djamena annonce mettre fin aux accords de défense avec la France. Annonce faite hier soir, quelques heures après la visite du chef de la diplomatie française. Alors que Paris déploie aujourd'hui environ 1 millier de soldats au Tchad. La France qui reconnaît par ailleurs un massacre à Tiaroy. C'est le mot employé par le président français dans une lettre adressée à son homologue sénégalais. Le 1er décembre 1944, les troupes coloniales ont tué au moins plusieurs dizaines de tirailleurs qui réclamaient le paiement de leurs soldes. Dans ce journal également, la Namibie qui prolonge encore ses opérations de vote, désormais jusqu'à demain samedi dans certains bureaux de vote pour les élections présidentielles et législatives qui auraient dû se tenir uniquement mercredi. La République démocratique du Congo, où l'Ouganda vient d'extrader une vingtaine de jeunes soupçonnés d'avoir été recrutés pour le compte des rebelles du M23. Et puis le Congo-Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso appelle au dialogue pour tenter de mettre fin aux nombreux conflits sociaux en ce moment dans la fonction publique. Les autorités françaises n'ont pas encore réagi ce matin. Le gouvernement tchadien, lui, parle d'un tournant historique. Le Tchad, dernier pays du Sahel où la France dispose d'une base militaire et où Paris déploie aujourd'hui environ 1 millier de soldats. Hier soir, quelques heures après le départ du ministre français des Affaires étrangères, N'Djamena a annoncé mettre fin aux accords de défense entre les deux pays. Sur place, Carole Valade.
Tombée en pleine nuit, l'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le ciel djaménois, quelques heures à peine après la fin de la visite au Tchad du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui n'a rien laissé paraître au sortir de sa rencontre avec le président Mahamat Idriss Déby. La France doit considérer désormais que le Tchad a grandi et mûri, que c'est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté, a simplement glissé son homologue tchadien, Abderrahmane Koulamallah, qui, joint par RFI, parle d'une décision mûrement réfléchi, annoncé très symboliquement ce 28 novembre, qui marque le 66e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad. Sans préciser s'il s'agit d'une décision unilatérale ou concertée, le ministre laisse entendre qu'elle devrait entraîner un départ du millier de soldats français stationnés dans le pays. Leur maintien serait contradictoire, dit-il, tout en assurant que ce retrait se fera selon les termes et dans les délais prévus par l'accord de défense. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
Des soldats français qui n'ont pas non plus vocation à rester au Sénégal. Voilà ce que dit en substance le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui a accordé des entretiens à plusieurs médias français hier. Question là aussi de souveraineté. Bassirou Diomaye Faye évoque la coopération avec d'autres grandes puissances sans que cela ne passe par la présence de bases militaires sur le sol national. Le président sénégalais, à qui Emmanuel Macron par ailleurs, vient d'écrire une lettre à propos des événements de Tiaroy le 1er décembre 1944, quand les troupes coloniales françaises ont ouvert le feu sur des tirailleurs qui réclamaient le paiement de leurs soldes après la Seconde Guerre mondiale, faisant au moins plusieurs dizaines, sans doute plusieurs centaines de morts. Et le président français emploie pour la première fois le terme de massacre. Magali Lagrange.
On n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais j'ai reçu une lettre du président Macron, explique Bassirou Diomaye Faye. Dans ce courrier, le chef de l'État français écrit que le 1er décembre 1944, la confrontation de militaires et de tirailleurs qui exigeaient que soit versée l'entièreté de leur solde légitime a déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Pour le président sénégalais, c'est un pas qui doit ouvrir la porte à une collaboration pour la manifestation de toute la vérité. Bassirou Diomaye Faye évoque la chape de plomb qu'on a régulièrement cherché à mettre sur cette histoire. Dans son courrier, Emmanuel Macron mentionne aussi la quête de vérité historique. Il importe d'établir autant que possible les causes et faits ayant mené à cette tragédie, estime-t-il. Il souhaite être tenu informé de l'avancée des travaux du comité pour le rétablissement des faits mis en place au Sénégal. Le chef de l'État français appelle à poursuivre dans le temps la coopération entamée pour, je cite, « écrire la réalité de l'histoire et bâtir une mémoire partagée et apaisée ».
Magali Lagrange, deux pays qui affichent, eux, leurs bonnes relations, c'est la Centrafrique et la Russie. Désormais, les détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service n'ont plus besoin de visa, que ce soit les Centrafricains pour aller en Russie ou bien l'inverse. Annonce faite hier par la ministre des Affaires étrangères centrafricaine, Sylvie Baipo-Témon.
Nous créons un cadre dans lequel nous allons pouvoir échanger de manière régulière, de manière fréquente, sur tous les sujets qui touchent notre coopération. Il y a un sujet politique-diplomatique, sur des sujets sécuritaires aussi, sur des sujets économiques aussi, et c'est dans ce cadre-là que nous allons pouvoir travailler à construire davantage et à consolider notre coopération. Nous avons également signé un accord sur la création, la mise en place de consultations politiques. Et certains pays, notamment des passeports spéciaux, qui rentrent dans le cadre aussi officiel, pour permettre justement à ce qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre les différents sectoriels, mais également les fonctionnaires, les cadres de certaines institutions qui pourront plus facilement se rendre en Fédération de Russie et inversement en ce qui concerne les passeports diplomatiques et les passeports de service de Fédération de la Russie vers la République centrafricaine.
Sylvie Baipotémon, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères. En Ouganda, la police indique que les opérations de recherche et de secours sont entravées par des routes impraticables. La porte-parole de la Croix-Rouge évoque, elle, de son côté, 45 maisons complètement ensevelies dans plusieurs villages de l'est du pays. Et les autorités ougandaises comptent ce matin au moins 15 morts et plus de 100 disparus, conséquence de glissements de terrain suite à des pluies diluviennes. L'Ouganda, d'où 18 jeunes arrêtés pour séjour irrégulier, viennent d'être expulsés vers la République démocratique du Congo. En RDC, ils ont été présentés aux autorités militaires de Bunia en Ituri et ils sont accusés d'avoir été recrutés pour le compte du groupe rebelle M23 qui occupe en ce moment une partie de la province du Nord Kivu. Explication à Kinshasa avec Patient Ligoni.
Ces 18 jeunes, pour la plupart des déplacés du territoire des Djougou, auraient été recrutés dans un camp de déplacés au nord de Bunia par un individu identifié comme un membre influent du groupe armé local Zaïre. Selon les autorités congolaises, ils étaient destinés à renforcer les rangs du M23 après avoir traversé la frontière ougandaise. Leur destination finale, les collines de Tchanzu, dans le Nord Kivu, un des bastions réputés du M23. Parmi eux, on compte 3 mineurs, certains encore en âge d'aller à l'école. Des sources militaires indiquent qu'ils ont été enrôlés parfois pour moins de 10 dollars ou contre une promesse de travail. Arrêtés par les services ougandais à la frontière, ces jeunes ont été extradés vers la RDC via Arou avant d'être transférés à Bunia. Les sources du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés précisent que ces personnes n'ont pas demandé l'asile en Ouganda et ne sont donc pas considérées comme des réfugiés. Présentés devant les autorités militaires à Bunia, ces jeunes ont été remis à la justice militaire pour enquête. Pour l'instant, le M23 n'a pas réagi à ces accusations. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
La RDC, où les élections prévues à la fin de l'année dernière, le 20 décembre, se sont prolongées localement pendant une semaine. En Namibie, en ce moment, même cause et mêmes effets. De nombreux dysfonctionnements dans les bureaux de vote, alliés à une forte participation. Et finalement, les scrutins sont prolongés jusqu'à samedi dans quelques dizaines de bureaux de vote. Décision de la commission électorale approuvée par le président pour ces élections présidentielles et législatives qui auraient dû avoir lieu uniquement mercredi. 2 jours de vote supplémentaires donc, encore aujourd'hui et demain, nécessaires au vu du nombre de personnes qui n'ont pas pu voter mercredi ou même hier, nous explique Valentin Hugues.
Certains électeurs ont été privés de leur droit de vote, annonce la commission, parce que cette élection, qualifiée de la plus disputée de l'histoire du pays, avec le parti historique SWAPO sur la sellette, a surtout viré au fil d'attente interminable, manque de bulletins dans certains bureaux, matériel informatique qui dysfonctionne, résultat des citoyens qui font le pied de grue toute la journée devant les bureaux de vote, qui parfois doivent patienter plus de 12 heures dans une chaleur étouffante, ou qui n'ont tout simplement pas réussi à accéder aux urnes. Les partis politiques en lice se sont rapidement indigné d'une telle situation. Réponse de la commission, prolonger le scrutin. Mais pour certains partis d'opposition, ce vote devrait tout simplement être annulé. Le processus électoral devrait recommencer à zéro. Continuant de croire que le vote est délibérément perturbé par la commission électorale pour permettre à la SWAPO de rester au pouvoir. Finalement, la commission a préféré l'option d'étendre la période du vote encore 2 jours dans une trentaine de bureaux, notamment en livrant de nouvelles piles de bulletins pour permettre à l'ensemble des 1,4 millions d'inscrits d'accomplir leur acte démocratique. Reste que l'opposition pourrait ne pas reconnaître l'issue du scrutin. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Au Liberia, on apprend la mort de Prince Johnson, ex-chef de guerre, acteur majeur de la guerre civile dans le pays entre 1989 et 2003. Depuis, il s'était reconverti dans la politique, il était dernièrement sénateur et il est mort, Prince Johnson, à l'hôpital à l'âge de 72 ans. En Europe, c'est aujourd'hui que Rokia Traoré doit être extradé de l'Italie vers la Belgique. L'Italie, où la chanteuse malienne a été arrêtée au mois de mai dernier, et la Belgique, où elle a été condamnée à une peine de prison sur fond de conflit autour de la garde de sa fille. Enfin, au Congo-Brazzaville, où les conflits sociaux sont nombreux en ce moment, avec des mouvements de grève, par exemple, à l'université publique, dans les transports urbains ou encore dans le secteur du chemin de fer. Le président appelle au dialogue, discours hier de Denis Sassou Nguesso, devant le Congrès à Brazzaville. Correspondance de Loïcia Martial.
Face aux deux chambres du Parlement, réunis en congrès à l'occasion de la fête de la proclamation de la République, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a qualifié les mouvements de contestation de grèves anarchiques, mettant en péril les entreprises ou administrations. Le président a appelé les uns et les autres au dialogue.
Seul le dialogue constructif et fécond peut permettre de trouver les compromis utiles et sauvegarder l'outil de travail. J'appelle au dialogue toutes les parties impliquées dans les conflits professionnels.
Ce discours de plus d'une heure, retransmis en direct à la radio et à la télévision publique, a été suivi par les agents de la Société des transports publics urbains. Ils accusent 28 mois d'arriérés de salaire et organisent un sit-in devant le ministère des Finances depuis quelques jours. Le dialogue est bien certes, mais je n'imagine pas comment l'État, qui ne crée aucune condition, va l'engager avec nous. Un ventre affamé n'a point d'oreille, a réagi sous couvert d'anonymat un responsable du syndicat de cette entreprise qui a arrêté de travailler. L'université publique ou encore le chemin de fer Congo-Océan sont également en grève, là encore, à cause des impayés. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
À Brazzaville, où il est maintenant 8h42, et vous êtes avec Julien Coquelle-Rohem pour la suite des RFI Matin.